VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Politique en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle d'octobre, Guillaume Soro, actuellement en exil, a annoncé qu'il s'opposera à toute modification de la constitution dans son pays, jugeant inacceptable de changer les règles du jeu à quelques mois seulement du scrutin. Plus de détails sur les déclarations de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne mercredi avec Bagassi Koura.
C'est tout de même inacceptable qu'on veuille changer les règles du jeu. Nous sommes outrés qu'en Afrique, à 6 mois d'élection, à chaque fois on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer les citoyens, a dénoncé avec véhémence Guillaume Soro depuis Paris. J'ai déclaré ma candidature en octobre 2019. Comment admettre qu'en cours de jeu, on change les règles, a-t-il ajouté. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, laisse planer le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat non autorisé par la Constitution. Début janvier, il a annoncé qu'il proposerait au Parlement des modifications de la Constitution, assurant qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle. Alassane Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison des changements de Constitution en 2016. Guillaume Soro, âgé de 47 ans, toujours député, a tenté le 23 décembre de revenir dans son pays. Après 6 mois d'absence, il est reparti en Europe car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays. Plusieurs de ses proches, dont des députés, ont été arrêtés et sont toujours en détention.
Contestation en Guinée maintenant. Le président guinéen Alpha Condé refuse toute ingérence étrangère dans les affaires de son pays, précisant que personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire. Le pays est confronté depuis des mois à une vague de manifestations de l'opposition qui réclame une plus grande implication de la communauté internationale. Éric Manirakiza.
En 1958, nous avons osé dire non pour prendre notre indépendance. Malgré tous les risques, nous sommes toujours debout, a dit hier Alpha Condé devant un parterre de diplomates. La Guinée avait voté non au référendum instituant une communauté franco-africaine proposé cette année-là par le général de Gaulle, accédant peu après à l'indépendance. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État de briguer un troisième mandat à la fin de l'année. À la mi-janvier, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait déclaré la France particulièrement préoccupée. Nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires, à les écouter, mais dans le respect réciproque. C'est le peuple de Guinée qui décide de son avenir. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde, a déclaré M. Condé. Il a aussi souligné que son pays n'était pas le seul à traverser des crises. Nous voyons des manifestations, nous voyons des crises partout, a-t-il dit. Au moins 27 personnes ont été tuées depuis la mi-octobre dans les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont également coûté la vie à un gendarme.
Alerte au coronavirus en Afrique. Aucun cas du nouveau coronavirus qui a infecté des milliers de personnes en Chine n'a pour le moment été décelé sur le continent africain. Mais au Sénégal, où les habitants ont de très vagues notions de cette pneumonie virale, leurs compatriotes bloqués en Chine demandent une assistance aux autorités. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagaye.
Avec plus de 100 morts en Chine et près de 5000 personnes contaminées, le coronavirus devient un danger de plus en plus présent dans le monde. À Dakar, on en parle peu et les rares citoyens imprégnés demandent un renforcement du contrôle aux frontières. C'est le cas d'Nganjo.
J'ai entendu parler, ils disent que c'est très dangereux, donc moi je ne connais pas la cause, mais je sais que nos autorités devaient prendre des précautions pour mieux garder nos frontières pour que les gens contaminés ne puissent pas entrer. Bon, nous on ne connaît pas la cause, mais si on sent quelque chose d'anormal à notre corps humain, mieux vaut d'aller à l'hôpital. Il faut juste se prendre les dispositions avant que ça entre dans notre pays.
Si les Sénégalais qui sont au Berkay demandent une vigilance maximale, leurs compatriotes présents en Chine sont, eux, déboussolés. Ousmane Diaye est un commerçant qui fait la navette entre Dakar et les villes chinoises. Il affirme que son commerce est certes plombé, mais pour le moment, le plus important à ses yeux est de venir en aide à ses concitoyens qui sont dans l'épicentre du coronavirus.
Là où je vous parle, il y a 12 ressortissants sénégalais qui résident à Wuhan. La ville est en quarantaine depuis 2 jours. Ils sont lancés des appels aux autorités pour qu'ils leur viennent en aide. Mais on n'a toujours pas eu de réponse venant de leur part ou autre. Donc nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils fassent des efforts pour les Sénégalais qui sont là-bas au moins.
Si les Sénégalais présents en Chine espèrent un rapatriement, les médecins, eux, ne le préconisent pas. Pour le docteur Sidi Tall, cette option est extrêmement risquée dans de pareilles circonstances.
Sachant qu'en cas d'épidémie, il est interdit de faire des déplacements de la zone de l'épidémie vers d'autres territoires avec un risque de dissémination de l'infection. Il est primordial que les cas ou même les gens qui doivent se déplacer soient dépistés au préalable. Question d'éliminer une infection quelconque. Donc, ce qui est primordial dans ces cas, il faudrait déjà que la personne qui a ces symptômes s'isole, qu'il ne soit pas en lieu public. Parce que pour le moment, aucun vaccin n'a été trouvé. Tous les symptômes qui ont été décrits, c'est des symptômes qui sont assimilables à des symptômes du syndrome grippal. Donc, faudra qu'on fasse attention parce qu'il y a une dissémination qui commence à s'installer.
Même s'il promet aide et assistance aux Sénégalais bloqués en Chine, l'État veut avant tout éviter l'entrée et la propagation du coronavirus au Sénégal. Pour y arriver, le ministère de la Santé préconise des mesures simples pour éviter la maladie. Il s'agit, entre autres, de se laver les mains avec du savon, de se couvrir le nez et la bouche pour tousser et, au besoin, de se protéger avec un masque. À Dakar, Seydina Abagaï pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique, au Tchad. Les forces armées ratissent aujourd'hui le secteur où 3 soldats tchadiens et une femme civile ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram sur l'île tchadienne de Choua, dans le lac Tchad. C'est ce qu'annonce le général Taher Erda, chef d'état-major des armées tchadiennes. Les éléments de Boko Haram ont attaqué notre position à 2h du matin, 1h temps universel, sur l'île de Choua, tuant 3 de nos militaires et une femme civile, a précisé le général Erda, en soulignant que les militaires tchadiens ont neutralisé 21 éléments de Boko Haram et poursuivent les ennemis qui ont réussi à fuir. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad. Une vaste étendue d'eau truffée d'îlots et de marécages partagés par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Violence en République démocratique du Congo. Au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Un nouveau massacre après quelques semaines d'accalmie. La tuerie a commencé mardi soir à Manzini, au nord-ouest de la cité d'Oicha, et les massacres ont duré toute la nuit d'après l'ONG des droits de l'homme, CEPADO. Selon les experts, les rebelles ADF actifs dans la région se vengent depuis novembre sur les civils face à l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leur base dans les environs de Beni. Et puis ici aux États-Unis, le président Donald Trump, ses avocats et la Maison-Blanche ont lancé mercredi une offensive généralisée pour empêcher son ancien collaborateur John Bolton de témoigner au procès en destitution du chef de l'exécutif ou alors de publier un livre contenant des confidences embarrassantes. Monsieur Trump s'en est pris à son ex-conseiller à la Sécurité nationale, l'accusant d'avoir multiplié ce qu'il appelle les erreurs de jugement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le président républicain s'étonne que son ancien conseiller, à peine parti de la Maison-Blanche, ait, je cite, écrit immédiatement un livre méchant et faux, faisant fi des règles de confidentialité. La Maison-Blanche s'est opposée mercredi à sa publication, mais d'après le New York Times, le président américain aurait bien confié en août à John Bolton qu'il comptait conditionner le maintien de l'aide américaine à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête à Kiev visant des responsables démocrates dont l'ancien vice-président Joe Biden. Cette accusation est au cœur même de la procédure d'impeachment lancée par les parlementaires démocrates qui accusent le président américain d'abus de pouvoir et d'entrave à l'enquête du Congrès. À la reprise du procès hier dans l'après-midi, l'élu démocrate Adam Schiff, qui fait office de procureur en chef, s'est immédiatement emparé du sujet. Il y a un témoin qui, s'il est assigné à comparaître, est prêt à répondre à vos questions, a-t-il lancé au 100 sénateurs chargés de juger le président. Pour les démocrates, il s'agit d'un développement majeur qui requiert que John Bolton témoigne au procès en destitution. La question sera soumise à un vote vendredi ou samedi. Pour citer John Bolton comme témoin lors du procès, les démocrates doivent obtenir l'appui d'au moins 4 sénateurs républicains.
Et pour terminer, course à la présidence des aux États-Unis, la course est très serrée entre les favoris de la primaire démocrate dans l'Iowa. Le premier État américain appelé à les départager lundi, l'ancien vice-président Joe Biden et le sénateur Bernie Sanders étant dans un mouchoir de poche, selon un nouveau sondage publié mercredi. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.